Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 161e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 23 avril, il est exactement 10h40 et nous allons parler aujourd'hui de The Transat CIC, Transat en solitaire qui s'élance dimanche 28 avril de Lorient à destination de New York. Nos deux invités y participeront. En IMOCA, la première à bord d'Initiative Cœur, il s'agit bien évidemment de Sam Davis qui est chez elle à Guidel. Salut Sam.
Salut Axel.
La seconde se lancera sur MACSF également en IMOCA, c'est bien sûr Isabelle Joschke. Salut Isabelle.
Salut Axel.
Eh bien mesdames, comme d'habitude, avant de vous donner la parole et d'échanger, je vais faire une rapide présentation de cette Transat CIC. Épreuve considérée à juste titre comme la mère de toutes les transats en solitaire. La première édition a eu lieu en 1960, on parlait alors d'Ostar, et c'est Sir Francis Chichester qui s'était imposé après 40 jours de mer entre Plymouth et New York. Quatre ans plus tard, et jusqu'à l'édition 2000 comprise, la course se terminait à Newport. Elle a ensuite été à Boston en 2004 et en 2008, pour revenir à New York en 2016. Le port de départ n'a lui jamais changé jusqu'à cette édition 2024, puisque pour la première fois, crime de lèse-majesté, Sam va sans doute nous en parler, c'est non plus de Plymouth mais de Lorient que s'élance The Transat CIC, le nouveau nom de celle qu'on appelle également Transat anglaise, même si elle n'a plus grand-chose d'anglais aujourd'hui. Cette épreuve en solitaire a une très riche histoire, elle a largement contribué à rendre populaire la course au large en France, suite à la victoire dès la deuxième édition en 1960 d'Éric Tabarly sur Pendwick 2. Il remettra ça en 1976 sur Pendwick 6 et restera comme un des nombreux vainqueurs français de la course, qui a également vu triompher, je ne les cite pas tous, Alain Colas, Philippe Poupon, Loïc Perron, Michel Desjoyeaux ou François Gabart. Les marins britanniques s'y sont également illustrés, comme Helen MacArthur et Mike Golding, respectivement vainqueurs en IMOCA en 2000 et 2004. Pour cette 15e édition qui se lance donc dimanche, 48 solitaires seront sur la ligne de départ. 33 en IMOCA, 13 en classe 40 et 2 en catégorie vintage. Elles seront 6 femmes sur la ligne, 5 en IMOCA, dont nos deux invités du jour, dont ce sera la deuxième participation. Eh bien voilà pour cette présentation, forcément très incomplète car il y a beaucoup de choses à dire sur cette Transat anglaise, sur cette Transat CIC. Sam, Isabelle, quand on évoque l'histoire de cette course, qu'est-ce qui vous vient le premier à l'esprit? On va commencer avec toi, Sam.
Moi, c'est mon histoire avec cette course parce que forcément, on découvre la course pour du vrai quand on y participe. Donc, j'ai un très joli souvenir d'il y a longtemps, parce que la dernière fois que j'ai fait, c'est la première et seule fois que j'ai fait en 2008 sur mon bateau Roxy, c'était en IMOCA à l'époque. Entre Plymouth et Boston. Et c'était un très chouette transat et j'aimerais bien de retrouver un peu tout ce que j'ai vécu en 2008 sur cette édition 2024.
On va revenir un petit peu sur vos précédentes participations respectives à la course. Est-ce que toi, en tant que navigatrice anglaise, tu as été marquée par des épisodes de cette transat anglaise quand tu étais un peu plus jeune?
Non, je pense pas. En fait, c'est une course vraiment que j'ai découvert une fois que j'ai commencé à vouloir en faire et pas trop avant, parce que moi quand j'étais jeune la voile en Angleterre c'est plus la voile en équipage, la Coupe America, the Ocean Race, ces courses là, et la Transat anglaise c'était un peu plus caché, un peu pour les fous un peu fou les fous qui traversent l'Atlantique tout seul sur le bateau. Ça m'intéressait pas vraiment à cette époque-là quand j'étais jeune en Angleterre.
Ouais, il y a plus une tradition d'équipage en Angleterre. Isabelle, quand tu entends, toi, un peu l'historique rapide que j'ai fait de cette transat en solitaire, est-ce que toi, il y a des épisodes qui t'ont marqué? Est-ce que c'est une course qui a pu susciter des vocations chez toi?
Alors moi, je dirais c'est encore pire que Sam. Moi, quand j'étais jeune, je connaissais pas grand-chose. C'est à peine si je connaissais le Vendée Globe. Moi, je rêvais de faire du bateau, mais la course au large, c'est vraiment un milieu qui m'était étranger parce que j'ai grandi dans les terres, parce que j'ai pas eu le loisir de naviguer autant que je voulais quand j'étais jeune. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à faire du mini que j'ai découvert ce milieu. Et donc le nom de toutes ces courses que oui, alors j'en avais peut-être entendu parler une fois ou deux, Éric Tabarly. Oui, tu me dis transat anglaise, moi je pense Éric Tabarly. Sinon, j'avoue que avant de courir moi-même en mini et de comprendre ce que ça voulait dire la course au large en solitaire, ça me parlait pas trop. Et un peu comme Sam, c'est une course dont j'ai pris la mesure quand j'en ai fait l'expérience moi aussi, il y a 8 ans.
Bon, ben justement, on va revenir sur vos expériences passées de cette course, donc à laquelle vous avez participé chacune une fois. Sam, toi, c'était donc, comme tu le disais, en 2008 sur Roxy, tu termines cinquième de cette édition. Si je me souviens, c'est Armel Lecléache qui s'était imposé en Imoca ou Loïc Perron, peut-être Loïc Perron. Qu'est-ce que tu gardes de
Loïc Perron, je pense.
Armel Lecléache, c'était 4 ans plus tard. Qu'est-ce que tu gardes de cette première transat en solitaire en 2008?
En fait, je garde les souvenirs un peu classiques de la transat anglaise. J'appelle ça parce que avec un peu de réminiscence, de tristesse. Mais oui, de traverser l'Atlantique Nord au printemps, où c'est encore agité. Et face à tous les systèmes météo qui arrivent, c'est animé comme transat puisque oui, on croise les systèmes, donc ça arrive vite. Il y a du beau temps, du mauvais temps, il y a plein de changements de voile. On fait du prêt, ça tape fort, c'est usant sur skipper et bateau. Mais en même temps, j'ai un super souvenir d'être hyper contente d'être là pour sur un année Vendée Globe. J'étais dans le même exactement la même situation à vouloir bien valider mon bateau et moi-même et tu veux un peu nos limites sur cette course qui démarrait la grande année qui termine avec le Vendée Globe. Donc c'était oui, je me souviens plein de choses classiques, des changements de voile au contact avec d'autres bateaux, notamment Yannick Besteven et Arnaud Boissia, c'était mes concurrents directs à l'époque. Donc j'ai les jolis souvenirs de bagarres, de régates avec eux, des objets vraiment poussé le bateau. Et aussi les souvenirs, oui, classiques de brouillard, des températures à 0 degré, croiser les baleines, des levées de soleil magnifiques, un peu des choses. Oui, je trouve que c'est un transat où on est servi, on s'ennuie jamais. C'est très très dur, mais il y a aussi plein de trucs merveilleux, plein d'expériences, et c'est très riche aussi au niveau de ce qu'on apprend sur nous-mêmes, nos bateaux, parce que les conditions, ça fait qu'on peut tout tester et un peu dans le dur.
Bon, ce qui est marrant, c'est que 16 ans plus tard, tu vas encore te bagarrer sans doute avec Arnaud Boissière et Yannick Bestaven.
Oui. Il y a plein de choses que moi je suis super contente de me trouver là avec maintenant Initiative Cœur et une flotte encore plus compétitive, encore plus grosse, mais un peu dans le même contexte, à vouloir tous pousser, tester nos bateaux et faire la régate en même temps, et puis en même temps penser au Vendée Globe qui arrive à la fin de l'année. Donc oui, j'ai hâte de découvrir, et j'espère que ça va aller un peu plus vite qu'il y a 16 ans quand même.
Il y a des chances. Isabelle, toi, c'est ta seule participation à ce jour, c'était en 2016, hein, c'est la dernière édition courue parce qu'il n'y a pas eu de transat anglaise en 2020 pour cause de Covid. Toi, tu étais à l'époque en classe 40 et tu as eu quelques mésaventures. Raconte-nous un peu ce que tu en gardes de cette expérience de la transat anglaise 2016.
Franchement, je crois que c'est une de mes plus belles courses jamais courues. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que finalement, je termine en abandonnant et je termine pas à New York, je termine à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc c'est pas tout à fait ça qui était prévu. Mais n'empêche que pendant les 11 jours de course où j'étais bien en course, j'ai vécu des trucs super forts et je pense que j'ai fait vraiment une de mes plus belles courses. Déjà, j'ai pris un départ incroyable alors que c'est pas mon fort les départs. On a dû contourner une dépression par le nord au bout de 4-5 jours et avec des vents très forts. Et moi, je me suis super bien débrouillée. Je me suis vite retrouvée dans le trio de tête. Et après la dépression, je suis passée en première position et jusqu'au moment où j'ai dû abandonner. Et dans mon souvenir, ça a été beaucoup de coups qui ont bien marché. Il y a aussi eu, bien sûr, des coups ratés, hein, ça. Il y en a toujours. Mais il y a eu beaucoup de choix tactiques qui ont très bien marché, qui étaient assez audacieux. Et moi, je les sentais. Pour moi, il y avait un peu tout qui se faisait comme, qui s'enchaînait. C'était des évidences. J'avais vraiment une fluidité dans l'enchaînement des jours. Alors, bien sûr, il y a eu plein de conditions. En fait, c'est le principe, hein, la traversée de l'Atlantique Nord d'est en ouest. C'est nous impose de traverser des pressions en permanence, des transitions, de en fait ça change tous les jours, faut beaucoup manœuvrer. Donc en fait ça fait un gros terrain de jeu et moi à l'époque je me suis vraiment éclatée et même si ça a été dur et que j'ai eu froid quand même, je me souviens qu'il y a eu de ça. J'en garde un souvenir mais incroyable.
Bon, Sam, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter parce que moi, j'ai un souvenir aussi d'avoir, en 2016, j'ai pas fait la course. J'étais en train d'aider Romain à préparer son mandat. Et j'ai un souvenir d'avoir suivi déjà, en regardant j'ai suivi la transat anglaise et je m'appelle d'avoir été impressionnée par la façon que tu naviguais. En plus, t'es toute petite, on se connaissait un peu, mais on se connaissait un peu moins que maintenant, et j'étais que tu as attaqué avec ton bateau, et t'as, ouais, comme tu dis, t'avais un stratégie parfaite, mais pas que, je pense que tu maîtrisais aussi les vitesses et les réglages, et je m'appelle d'avoir vu exploser mais toute la flotte, et j'étais dégoûté pour toi quand t'avais cassé parce que j'avais juste une hâte de voir ton arrivée devant tout le monde là-bas et donc j'étais trop déçue pour toi sur cette course en 2016.
Isa, je te laisse réagir.
Ouais, merci, ça me fait super plaisir. C'est vrai que en fait ce qui était un peu surprenant pour moi cette année-là, c'est que je ressortais du circuit Figaro où j'avais passé quelques années où j'avais pas franchement eu des bons résultats. Ça avait été vraiment une période assez dure pour moi. Et de pouvoir repartir au large, c'était tellement, mais le bol d'air, j'étais tellement heureuse que c'est comme si je me retrouvais de nouveau dans mon élément. Et ce que tu dis, Sam, c'est que t'étais surprise parce que c'est vrai qu'on, même moi, je me disais tiens, mais en fait, je suis capable de tout ça. Et je crois que j'avais oublié que, en fait, si, au large, je peux aussi bien me débrouiller.
Ouais, tu retrouvais ton terrain de jeu de prédilection.
Ouais, complètement.
Tu nous rappelles pourquoi tu avais dû abandonner ?
Oui, en fait, la structure de mon classe 40 s'était cassée et la coque s'était fissurée. Et en fait, elle était fissurée du côté bâbord et du coup, j'avais une voie d'eau. Et ça fait que j'ai dû giter sur tribord, donc j'ai dû virer de bord et me mettre en bâbord à mur jusqu'à l'arrivée. Et donc, je pouvais que aller vers le nord parce que, en fait, j'avais du vent d'ouest. Donc, c'est pour ça qu'au lieu d'aller à New York, j'ai fini à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Bon, c'est une nouvelle dimension voyage d'arriver, j'imagine, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça doit rester un petit souvenir quand même.
Ah, carrément, ça reste un souvenir, un excellent souvenir. J'ai aucun regret par rapport à cette course.
Ouais. Isabelle, on va continuer avec toi. On parle souvent, quand on parle de la transat anglaise, de l'Atlantique par la face nord. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est une expression un peu galvaudée?
La face nord, moi, je sais pas ce que c'est en vrai parce que la montagne, c'est pas mon milieu. Je pense que l'Atlantique par la face nord aujourd'hui, c'est peut-être plutôt la Vendée Arctique, les sables, où on va jusqu'en Islande. Mais la Transat anglaise, c'est sûr que ça n'a rien à voir pour moi avec même une route du Rhum qui peut se courir par et une Jacques Vabre, on a vu, ça peut se courir quand même par le nord, mais pas à ce point-là. Et en fait, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une course spécifique où on sait qu'il y aura beaucoup de transitions, beaucoup de manœuvres, beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations. Et pas forcément une semaine complète sous Spi ou sous Jenaker avec le soleil et des températures agréables.
Ouais, bien sûr. Sam, forcément, on va te poser la question. On parle de Transat anglaise, mais ce n'est plus une Transat anglaise puisqu'elle s'élance de Lorient, elle va à New York. Comment toi, la britannique, même si tu disais que tu n'as pas été forcément nourrie par l'histoire de cette course, tu prends ce changement de port, ce n'est plus Plymouth, mais Lorient.
C'est une mélange un peu d'émotions parce que moi aussi, je suis une Anglaise et je suis venue en France pour naviguer, donc je peux pas trop critiquer ces changements, mais je suis un peu déçue quand même de qu'il y a plus de grandes courses en solitaire qui partent de l'Angleterre, parce que ça me faisait toujours plaisir aussi de montrer, parce que l'Angleterre quand même c'est une île et il y a beaucoup de passion pour le bateau, pour la voile, et ça me faisait, oui, je sais que quand on emmène les immortels là-bas, les fans de la voile anglaise, ils adorent ça. On voit ça aussi avec le Fastnet Race. Ça fait toujours hyper plaisir d'emmener ou d'être partie de la flotte Imoca dans le Solent, parce que je sais comment ça impressionne et puis ça inspire les Anglais aussi, les navigateurs anglais. Mais en disant ça, c'est sûr que les ports, les villes anglaises, je ne sais pas pourquoi, mais et ils profitent pas autant que les villes françaises pour faire un peu la festival de départ des courses, de faire les villages, d'avoir du public, d'investir dans ces événements. C'est pas pareil et je ne sais pas comment on peut faire pour créer cette même ambiance ou cette même
atmosphère.
Ah, oui. Oui, pour donner envie en fait aux gens de Vignières, vite d'investir, pour décoller un peu ça, comme on voit sur la route de Rome à Saint-Malo ou sur au Sable de Bonne avec le Vendée Globe. Ça peut être énorme. Et moi, je suis un peu déçue aussi que en Angleterre, on n'a jamais réussi à créer ça. Et donc, c'est un petit peu un échec, mais je comprends aussi parce que il faut que ces courses-là, ils fassent vivre les villes. Et si ça marche pas en Angleterre, voilà. Je sais qu'il y a le public français et les villes en France qui savent faire et qui vont bien profiter de l'événement. Et finalement, nous et la course, on va sûrement inspirer plus de monde en étant en France que si on avait parti d'Angleterre. Et moi, je sais que c'est important. C'est quelque chose qui est important pour la voile. C'est le fait que on partage, on inspire, on raconte des histoires et je sais que ça fait du bien au public. Et tant mieux s'il y a beaucoup plus de public français qui vont apprécier ça.
Bon, et en plus maintenant, vous évoluez à domicile l'une comme l'autre puisque vos deux projets sont basés à Lorient. On va, avant de parler de vos objectifs un petit peu et de la façon dont vous abordez cette Transat CIC, on va lui redonner son nom actuel, peut-être faire un petit retour en arrière rapide sur vos saisons 2023 respectives. Isabelle, on va peut-être commencer par toi. Quel est un peu le bilan que tu as fait de ta saison 2023 qui s'est terminée donc par la Transat Jacques Vabre? Vous avez eu des soucis de grand voile, je crois, avec Pierre Brasseur. Vous terminez 29e. Tu termines après à une bonne 9e place de retour à la base. Quel est un peu le bilan que tu as tiré de cette année pré-Vendée Globe?
Écoute, j'en tire vraiment beaucoup de plaisir et de joie de terminer ma saison en 9e position sur le retour à la base. Ça, pour moi, c'était une place inespérée vu le potentiel de mon bateau et vu les bateaux que je laisse derrière moi à l'arrivée à Lorient. Donc, je crois que c'est ça que je vais garder comme souvenir de ma saison 2023. Je pense que la Jacques Vabre, avec la déchirure de ma grand voile, ça a été une grosse leçon. Ça a été bien utile parce que ça m'a permis de me repositionner en termes de préparation du bateau, de choix de voile, de me rappeler que l'objectif, c'est la fiabilité. On part sur le Vendée Globe, on part pas sur une Transat là à la fin de l'année. Et donc, je crois que j'ai eu l'occasion de valider plein de choses et de me projeter, en fait, tout au long de la saison 2023, de me projeter sur le Vendée. Chaque course que j'ai faite, en fait, j'ai pu en tirer des leçons et me dire, OK, sur le Vendée Globe, qu'est-ce que ça peut m'apporter ou me permettre de changer dans mes choix. Et aujourd'hui, vraiment, ce que je garde comme souvenir, c'est le retour à la base qui a été une course au portant avec du vent assez fort, avec une mer pas forcément facile à négocier et qui m'a beaucoup rappelé les mers du Sud, en fait. Et du coup, j'ai vu que j'avais énormément progressé, j'avais gardé le même bateau, mais qu'aujourd'hui, j'avais beaucoup progressé dans ma capacité d'aller vite, d'endurer la difficulté, de faire face. Et je pars avec beaucoup de confiance, en fait, pour cette nouvelle année.
Ouais, ça fait quand même maintenant un bout de temps que tu navigues sur ce bateau. Il ne doit plus avoir beaucoup de secrets pour toi.
Si, je pense qu'il y en aura toujours des secrets. Un bateau, c'est complexe. Et je pense que la plupart d'entre nous, quand on navigue que quelques années sur un bateau, on ne connaît pas sur le bout des doigts, hein, contrairement à ce qu'on peut parfois dire. Mais en tout cas, c'est vrai que ça présente des avantages, ça présente des inconvénients. Le fait de garder le même bateau sur un deuxième Vendée Globe, ça veut dire que forcément, en termes de potentiel, eh ben, on n'a pas évolué. Mais par contre, en termes de connaissance du bateau et de connaissance de soi, eh ben, on a plus de temps, on a plus d'énergie aussi à consacrer à ce domaine-là. Moi, c'est vraiment le pari que j'ai fait. Et l'année 2023, elle m'a montré que j'étais au bon endroit, en fait.
C'est le pari d'ailleurs qu'avait fait Yannick Bestaven il y a 4 ans et qui lui avait souri. Sam, toi, en 2023, on a eu l'impression d'une nette montée en puissance. Hein. Tu termines par deux bonnes places, 5e avec Jacques Boutel sur la Transat Jacques Vabre, 6e sur le retour à la base. On a l'impression qu'après une première année de prise en main de ton bateau qui a été mis à l'eau en 2022, c'était une année assez pleine au niveau des résultats et de la apprentissage que tu as fait sur ce bateau.
Oui, oui, et pas que sur ce bateau, parce que j'ai commencé en 2023 sur Pieuse d'Âme, où j'ai eu la chance d'aller faire l'étape 3 avec Paul et son équipage. Et un peu comme Isa, toute l'année, on pense toujours au Vendée Globe quand on est l'année avant, et tout ce que j'ai fait, c'était avec ça en vue, et y compris cette étape 3. C'est une chance de pouvoir aller jouer, entre guillemets, jouer dans la mer du Sud, puisque c'est loin pour nous. Et on peut pas juste emmener nos bateaux pour faire quelques jours d'entraînement. Donc cette opportunité-là, pour moi, c'était obligatoire. En fait, c'était une étape obligatoire pour moi pour avoir confiance d'emmener mon bateau, qui est un nouveau bateau, qui est puissant, et d'avoir fait ça sur un autre bateau similaire en équipage, ça m'a beaucoup donné confiance. Et puis oui, pendant ce temps-là, l'équipe Initiative K, ils avaient fait un super chantier. On n'avait pas grand-chose à changer sur le bateau. Donc on a pu recommencer à naviguer. Je crois qu'ils même, ils ont commencé à naviguer avant que je suis rentrée d'Itajaï. Et j'ai pu enchaîner toute la saison Imoca sur Initiative K, avec des courses qui font différence sur chaque course. J'ai navigué avec Damien Seguin en double, avec Nicole Unven, et puis la fin de la saison avec la Jacques Vabre, donc la grande course avec Jack Boutel. Donc j'ai beaucoup appris sur mon bateau, et grâce à un super travail de l'équipe, parce que du coup le bateau était prêt à... J'ai monté dessus, je pense que c'était 2 jours dessus, et puis on a attaqué la première course à Bermude-Millois, et à fond les ballons. Donc ça a fait plaisir aussi de pouvoir vraiment découvrir comment ça a poussé le bateau. Et avec des marins différents, et chaque fois, moi j'aime bien naviguer avec des gens différents, parce que l'année double, c'est hyper riche, on apprend 2 fois plus vite. Et là, j'avais l'impression d'apprendre encore plus, parce que avec chaque coéquipier, j'ai appris les choses différentes, et puis c'était génial aussi. Je connaissais pas très bien Jack. On s'est mis ensemble un peu dernière minute avant la Jacques Lab, et puis pareil, on continuait à prendre le bateau ensemble, et faire un super place, ou 2 super places avec la Jacques Lab 5e, et puis retour à la base 6e. que je redoutais un peu aussi, parce que c'était être en solo sur une vraie course avec un bateau prêt à être poussé. J'avais l'impression que c'était hyper longtemps que je n'ai pas fait une vraie course en solo. Avec le bateau en mode course et capable d'aller à 100% de ses capacités. Et puis, je me suis demandé si j'étais capable à tenir sur ces bateaux qui sont de plus en plus puissants, assez violents et tout. Et finalement, je me suis bien amusée, bien éclatée. En fait, j'ai adoré cette course et avec quelques difficultés, mais j'ai réussi à m'en sortir pas trop mal. Et on avait une chouette groupe de bateaux où on s'est bagarré un peu tous pour essayer de finir à la quatrième place. Et ouais, moi, en sixième place, ouais, j'étais super contente. Donc ouais, je garde plein de souvenirs de la saison entre un Cap Horn magnifique en équipage après un étape un peu dure et puis et toute cette découverte du bateau Initiative K et la maîtrise et la gagne de confiance.
Isabelle, quand tu entends ça, mais quand tu vois ces nouveaux bateaux, donc c'est un plan manoir mis à l'eau en 2022 qui était construit dans les moules de l'Occitane. Toi, tu as un vieux bateau hein, maintenant qui commence à avoir, il a 17 ans, il a été mis à l'eau en 2007 sous le nom de Safran et depuis il a été équipé de foils un peu plus grands. Du moins, il était sans foils au départ et maintenant il a des foils un peu plus grands. Tu as vraiment l'impression de plus boxer dans la même catégorie?
Oui, c'est clair. C'est clair qu'aujourd'hui, un bateau comme celui de Sam et le mien, je dirais qu'on a un peu rien à faire ensemble. C'est-à-dire que dans des conditions qui sont pas extrêmes, je pense que Sam va aller tellement plus vite que moi qu'au bout de 1 heure ou maximum 2 heures, je devrais plus l'avoir à l'horizon. Donc là-dessus, il y a vraiment aucun doute. Hein. On joue pas dans la même cour avec les bateaux neufs, même avec les bateaux de la génération précédente. Et c'est le pari qu'on a fait avec mon équipe, avec mon sponsor, la MACSF, quand on a choisi de repartir. Et pour moi, c'est parfaitement OK. Moi, c'est vrai que j'envisage la course toujours avec le prisme de la performance. Ça, c'est clair, pas moins qu'avant. Mais peut-être pas forcément axé sur la technique. Certes, notre sport est un sport mécanique, mais il y a la partie mécanique et il y a la partie humaine qui est très importante du fait qu'on soit seul à bord. Et moi, j'ai vraiment pris le pari que j'avais pas mal de choses à améliorer pour refaire le Vendée Globe et un Vendée Globe différent, peut-être mieux réussi avec le même bateau toujours.
Bon, on va parler un petit peu de technique quand même. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'une comme l'autre ce que vous avez fait sur le, du moins ce que vos équipes ont fait sur le bateau cet hiver? J'imagine qu'il y a eu des chantiers d'optimisation en vue du Vendée Globe. On va continuer avec toi, Isabelle.
Bah, de mon côté, on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie et la vie à bord. On a rendu l'espace de manœuvre beaucoup plus sec parce que j'étais très soumise aux embruns. Et j'avais remarqué dans le Pacifique notamment que l'eau était très froide et que ça me pompait beaucoup d'énergie en fait d'être sans arrêt aspergée avec de l'eau glacée. On a changé le moteur et changé les moyens de charge et puis on a fait une grosse révision générale globalement. Donc on a vraiment axé le chantier sur la fiabilité, le Vendée Globe, l'énergie. Plus que sur l'espoir d'aller plus vite et des grosses transformations.
D'accord. Sam, de votre côté, du côté du team Initiative Cœur, quels ont été les grands axes de ce chantier d'hiver?
On avait... En fait, c'était pas vraiment l'hiver, mais au cours de l'année, on avait lancé un deuxième pas de foil. Pas vraiment... On n'a pas le but d'améliorer, on n'avait pas le but d'améliorer la performance du bateau puisqu'il est déjà très bien, mais c'était trop risqué vu la saison qu'on a d'imaginer avec ces deux transats là de pas avoir un moyen de remplacer ou un foil. Et en fait le problème avec cette saison c'est que si on casse un foil sur un des deux transats, il reste plus le temps pour fabriquer un emplacement avant le Vendée Globe. Et du coup, on a fait le choix de faire un deuxième paire de foils pour cette raison-là. Ça pose des questions à Nimoka, parce que ça fait beaucoup de fabrication des choses. Si on imagine plusieurs équipes qui font la même chose, c'est dommage qu'on ne peut pas mutualiser ça, pour un peu comme on a les mâts et les mâts de sphère partagées. Mais bref, ouais, ça c'était. Donc, on a des nouveaux foils qui sont un petit peu différents. Et finalement, ça ajoute, depuis que là, les quelques semaines qu'on navigue, je vois une nette différence. Donc, c'est un gain de performance, pas vraiment fait exprès pour gagner la performance. Mais ça vient aussi avec... je me suis dit qu'il faut que j'écoute bien mon bateau, parce que du coup, à augmenter la performance, ça augmente forcément la charge, les charges partout, et la usure. Donc, c'est pas forcément un avantage pour cette première transat, mais c'est pour cet objectif en Égypte et de pouvoir être sûr d'être au départ avec tout ce qu'il faut. Après, en chantier, on a eu quelques travaux de structure à faire, parce que le bateau à la base, comme disait Isa, c'était assez vanté, assez sportif. Et puis donc le bateau, il a eu, j'ai pas vu pendant la course, mais il y avait un peu de structure, un peu de renforcement, réparation et renforcement suite à cette course-là à faire, qui a pas mal pris le temps dans le chantier. Donc on n'a pas fait d'autres optimisations, c'était vraiment concentré sur préparer, renforcer. Et pareil que Isa, un gros dossier ergonomie aussi, où on avait un peu fait des petits tests sur et tout à la base. J'ai une nouvelle siège avec une pose de veille intérieure du bateau, mais c'est une siège qui moulait vraiment sur la forme de moi, et puis amorti donc pour essayer de moins souffrir avec la violence du bateau. Qui le mien, il s'enfonce moins, mais il tape même au portant, il tape très fort, et j'essaie de trouver les solutions pour que ça me fatigue le moins, en fait.
Ouais, on a l'impression que dans tous ces travaux d'ergonomie que vous avez tous menés sur vos bateaux, il y a aussi l'objectif de, justement, parce que ces bateaux sont quand même assez violents, les chocs sont assez brutaux, vous avez tous essayé aussi de limiter au maximum les déplacements dans le cockpit. C'est aussi d'avoir à peu près tout à portée de main, c'est aussi un des objectifs, Sam ?
Oui, carrément. Et, ouais, moi, je me suis placée, c'était avec un collision, mais j'ai cassé des côtes en étant projetée sur mon bateau. En 2020, et j'ai bien vu que on peut faire pire, notamment d'avoir fait l'étape de mer du Sud sur Biotherm aussi. J'ai vécu en direct aussi le comment c'est encore plus impressionnant quand on est dans les étapes de mer quand je suis là-bas. Donc, oui, limiter les déplacements pour éviter les blessures et aussi pour réduire la fatigue. Parce que chaque déplacement, donc on est très concentré, très tendu, et moi aussi c'est dans l'objectif de pouvoir, même il y a des moments où ça tape tellement fort, t'as du mal à avaler la nourriture, donc c'est de pouvoir essayer de bien manger, de pouvoir bien faire à manger aussi et vivre, parce que les bateaux finalement ils sont hyper costauds, et si on est bien protégé dans nos bateaux, on peut quand même faire des vitesses impressionnantes, et c'est génial, mais il faut apprendre à vivre avec.
C'est clair. Isabelle, est-ce que du côté de MACSF, il y a des éventuels foils de spare, hein, si jamais tu as un problème sur la transat anglaise, par exemple?
Pas du tout. Alors, de notre côté, déjà, je pense qu'on, j'allais dire, on navigue pas sur la même planète au niveau du budget. Nous, on n'a pas du tout le budget pour ça. C'est sûr qu'il vaudrait mieux que je revienne avec mes foils de la Transat CIC. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de participer à la Transat CIC uniquement et de revenir en convoyage. Donc nous, on mise sur nos foils qui, somme toute, sont quand même des foils très costauds. On les a installés en 2019. C'est la première génération des grands foils. Et alors ça va beaucoup moins vite que les foils d'aujourd'hui dont Sam est équipé, et puis tous les nouveaux bateaux, mais ça va quand même très vite. Et ce que Sam raconte, ça me parle énormément, en fait, cette histoire de... Il y a un moment donné, là, nos machines, elles sont devenues quand même très brutales. Elles sont devenues difficiles à vivre. Elles mettent même notre sécurité en péril. Et du coup, ça devient vraiment important de se concentrer sur le fait de rester en pleine forme. Enfin, en plus, on peut pas rester en pleine forme, mais disons que de souffrir le moins possible à cause des chocs, à cause de voilà tout ce qu'on endure en fait sur des bateaux qui vont quand même parfois très très vite. Et du coup, quand j'ai entendu Sam parler de son siège, moi c'est mon sujet aussi. Et c'est un truc que je me suis pas dit en 2020, mais aujourd'hui, ça, pourtant le bateau c'est le même, mais je pense qu'en 2020 j'ai perdu beaucoup d'énergie en fait à souffrir d'une vie à bord qui était difficile et pour laquelle j'étais pas super armée. Et là vraiment, on essaie de mettre en place tout un tas de trucs pour que je me sente le mieux possible.
Qu'est-ce que tu attends de cette Transat CIC? Est-ce que c'est un objectif sportif à part entière ou c'est vraiment une épreuve que tu considères vraiment à l'aune du Vendée Globe, qui est bien évidemment le projet prioritaire de tous vos projets?
Ouais, moi je la considère vraiment comme un entraînement pour valider le bateau, pour moi bien sûr me remettre dans le solitaire, naviguer, retrouver la compétition. Enfin voilà, pour moi c'est quand même une forme d'échauffement et je vais pas, j'ai aucun objectif sportif, je vais même pas regarder exactement quelle est ma place souhaitée, je vais pas compter le nombre de bateaux qu'il y a potentiellement devant moi. De toute façon, il y en a beaucoup beaucoup si on regarde juste ce qui se passe sur le papier. Mais en même temps, je me fais confiance parce que le retour à la base, j'avais exactement le même état d'esprit. En fait, j'avais eu 5 jours pour me préparer. Parce que je suis arrivée très tard à cause de mon escale sur la Transat Jacques Vabre. Et donc, je me suis dit, OK, avec 5 jours de préparation, je vais pas être au taquet sur cette course. Je vais pas forcément faire une super course, mais tant pis, je vais la faire quand même avec, entre guillemets, avec les moyens du bord. Et puis, il se trouve que j'ai fait finalement une super course. Donc, je me dis, là, clairement, je vais pas me mettre la pression parce que l'idée, c'est d'avoir un bateau qui reviennent en très bon état pour pouvoir continuer sereinement la préparation du Vendée Globe. Mais je me fais confiance qu'une fois que je serai sur l'eau, je vais me mettre dans la compète assez vite et puis je pense que je vais donner le meilleur de moi un peu comme à chaque fois.
On rappelle que l'une comme l'autre, vous êtes un peu délivré entre guillemets des histoires de qualification et de sélection parce que vous avez juste à couper la ligne de départ de cette Transat anglaise pour être officiellement qualifié pour le Vendée Globe et dans la course aux 1000. Si jamais on en aura besoin, Sam, tu es un bateau neuf, donc tu n'es pas concerné. Et Isabelle, je crois que tu es deuxième au classement, donc tu as beaucoup de marge. Sam, quel va être toi ton objectif sur cette Transat CIC, compte tenu de tes résultats l'année dernière, donc comme 5e sur la Jacques Vabre, 6e sur retour à la base? Est-ce qu'on peut considérer que tu vas faire partie des prétendantes au podium?
Podium, je suis pas sûre parce que. Il y a quand même des très bons bateaux, j'ai du mal à suivre avec mon bateau, mais j'ai des objectifs bien sûr sur cette course. Tu as bien dit, nous ça suffit de couper la ligne de départ, donc ça enlève l'impression d'être obligé de finir et tout ça. Au contraire, en fait, moi je vois cette Transat qui va être dur, une super opportunité de valider le bateau et surtout le skipper en vue du Vendée Globe. Et donc moi j'ai envie de bien tester mon bateau et moi-même. Je sais que il reste encore de temps si il y a des problèmes, donc j'ai pas peur de ça. Donc j'ai envie de pousser mon bateau pour le plus que je le pousse. Moi et mon bateau, le plus qu'on aura confiance au moment du départ du Vendée Globe. Oui, j'estime que s'il y a des problèmes, le plus tôt qu'on les trouve, le mieux c'est. Donc j'ai envie de, je dis pas attaquer puisque je suis pas une fou furieuse non plus, mais ça fait plaisir en fait de pas avoir l'impression à finir, de pas avoir l'impression elle a autre chose que qu'elle est vraiment profiter de d'avoir la chance d'avoir un bateau comme ça et essayer de l'utiliser à son potentiel.
Ouais, tu vas toi enchaîner avec la Transat New York Vendée avec la Transat retour, parce que Isabelle expliquait les raisons pour lesquelles elle ne fera pas le retour. C'est quand même très engagé de Transat en solitaire en l'espace de si peu de temps. Comment tu vois les choses?
C'est très engagé, mais si on regarde les durées d'un Vendée Globe, 2 fois 10 jours, c'est pas énorme non plus. Donc je vois ça plutôt comme ça, en disant, entre ces deux courses et le Vendée, j'ai de la chance aussi, avec une super équipe, de pouvoir breaker et me récupérer entre les deux. Donc, en vue, comme disait, c'est des entraînements pour le Vendée. Le plus que je peux faire des courses en solo, moi, je pense que le mieux, je serais au moment de départ du Vendée Globe. Et chaque course a ses avantages. Le premier, bon, pour tout ce que j'ai dit, sur le fait qu'il est dur, on est face aux éléments, on va taper fort avec nos bateaux et c'est un très bon test avec le temps. Et puis le retour, c'est un petit peu plus comme le retour à la base où on va être un peu plus important. Donc ça simule un peu plus les conditions de quand on va avoir sur un Vendée Globe. Et en plus, moi, Initiative Cœur, j'ai des sponsors vendiens, donc c'est important pour moi aussi d'arriver à Sable d'Olonne sur le New York Vendée aussi. Et je crois qu'il y aura du monde qui nous attend là-bas, donc oui, j'avais envie, pour plein de raisons différentes, à faire les deux. Et quand on a un super bateau comme Initiative Cœur et j'ai de la chance d'avoir, on n'a pas l'énorme budget non plus. Normalement, c'était pas prévu dans le budget de faire les deux, et on a réussi à squeezer pour faire les deux, parce que ouais, c'est une opportunité, c'est un privilège d'avoir un bateau comme ça, et les courses sont là, donc on peut les faire.
Isabelle, on est à 6 mois et demi, je crois, du départ du Vendée Globe. Ça sera le deuxième pour toi. Tu avais été contrainte à l'abandon sur le précédent. Est-ce que à 6 mois et demi du départ, tu as l'impression d'être bien où tu voulais être au niveau de ta préparation?
Ouais, carrément. Ouais. Je pense que on est là où on veut être avec mon équipe. Que si la Transat CIC se passe bien et qu'on revient tout tranquillou à l'Orient avec un bateau en très bon état, ben on va pouvoir partir vraiment avec le sentiment d'être prêt. Et je crois que ça, en tout cas pour moi, c'est un gros objectif en soi. Partir sur le Vendée Globe en ayant vraiment bien préparé le bateau, que moi je sois bien préparée, ce qui avait été quand même un peu moins le cas il y a 4 ans et j'en avais pas mal souffert.
Et toi, Sam, est-ce que tu es dans les clous au niveau de ta préparation quand tu as imaginé ce Vendée Globe 2024 et le plan pour monter en puissance? Tu es là où tu voulais être?
Oui, carrément, avec un peu les inconnus qui arrivent dans les semaines à venir. Donc, oui, à l'état actuel, super contente d'être là avec une belle année 2023 et plein de temps sur l'eau prévu et du temps sur l'eau tout seul sur mon bateau prévu entre maintenant et le départ. Et l'équipe, oui, l'équipe a fait un super boulot avec le bateau Initiative Cœur. Donc, j'ai hâte pour cette année et un peu comme Isa, je pense que je me sens un peu plus sereine avec tu même malgré le fait d'avoir changé de bateau. Et je comprends très bien ce qu'il disait, c'est chouette aussi de ça prend tellement longtemps à apprendre un bateau, donc oui il faut quand même que je peux pas me relâcher tout de suite, parce que moi il y a plein de choses encore à apprendre avec le bateau Initiative Cœur, et donc il faut rester focus quand même jusqu'au jour du départ du Vendée Globe.
Quand je te parlais de podium tout à l'heure, tu disais oui, peut-être pas, il y a quand même quelques très très autres bons bateaux. Est-ce que tu te considères quand même comme une prétendante aux bonnes places, ou quand tu parles de très bons bateaux, tu as l'impression qu'il y a quelques bateaux qui sont au-dessus du tien, ou en tout cas le couple bateau skipper?
Oui, bien sûr. On a fait un petit travail avec l'équipe hier, on a pris l'habitude de faire ça et essayer de mettre un objectif qu'on est tous d'accord, donc c'est pas que moi qui fait ça, c'est avec toute l'équipe Initiative Cœur. Donc on analyse un peu la flotte, comme tu dis, le couple skip a bateau, les couples skip a bateau, pour savoir à peu près où il faut jouer dans la flotte. Et pour moi c'est important parce que comme disait aussi, c'est des grosses flottes maintenant, il y a plein de monde. Parfois on a l'impression d'avoir tellement de monde devant, surtout dans les premiers jours quand ça part au taquet, et puis on se tue dans les entre 10 et 15, et puis dans les années précédentes on est moqueur, il y avait même pas 10-15 bateaux sur ces courses là et maintenant il y a autant de bateaux derrière que devant, donc c'est plus la même analyse, et je trouve que c'est super, ça aide beaucoup quand je me tue sur l'eau, de savoir où il faut jouer. Donc nous on a sorti une petite analyse où on a des couples batteurs skippers qu'on estime sont meilleurs que moi et mon batteur, et puis on a un paquet aussi qu'on estime qui sont équivalents, et puis il y a aussi un groupe où il faut que j'essaie d'être devant. Et comme ça, je sais à peu près où je navigue. Et, donc, ça donne un sens de fourchette. Et là, sur cette course, moi, j'aimerais bien d'être dans les 10. Mais oui, j'estime que le podium, c'est un peu difficile.
Isabelle, quand tu entends Sam parler de cette étude de la flotte, à t'entendre tout à l'heure, tu n'es pas complètement dans la même disposition. Est-ce que tu regardes quand même un petit peu, dans justement, on parlait de catégorie tout à l'heure dans laquelle boxer, est-ce que tu regardes un peu quels peuvent être tes objectifs au regard de la concurrence?
Oui, bien sûr. Déjà, je voulais dire quand même que je trouve que Sam a fait preuve de beaucoup d'humilité, mais moi, je pense qu'elle peut carrément naviguer avec beaucoup d'intelligence et qu'elle peut carrément finir sur le podium. En ce qui me concerne, je m'amuse pas à compter le nombre de bateaux que je peux avoir devant, mais par contre, ce que je regarde, c'est quels sont les bateaux qui ont à peu près le même potentiel que le mien et comment je me situe par rapport à eux. Et c'est pour ça que je considère que le retour à la base était une course très, très réussie. C'est parce que juste derrière moi, il y a Fortinet et juste derrière, il y a Medallia qui sont deux bateaux avec des potentiels quand même franchement supérieurs aux miens. Et puis aussi la Micaline qui est l'ancien bateau de Samantha qui est aussi un cran au-dessus, un tout petit cran au-dessus du mien. Mais c'est un peu ça que je regarde. Et après, il y a aussi des bateaux à dérive qui ont pu terminer devant moi. Et que j'ai pas du tout envie de voir devant moi. Donc moi je regarde un petit peu ça et je vais considérer que ma course elle est réussie si je laisse un ou deux foilers dont ceux que j'ai mentionnés derrière moi. Je pense que je vais avoir fait une super course. Après pour ce qui est des bateaux neufs ou très récents, quand ils finissent derrière moi, c'est soit qu'ils ont fait une très très mauvaise option, soit qu'ils ont eu des problèmes techniques. Donc ça peut arriver. Et quand ça arrive, ça peut amener à faire un top 10, comme je l'ai fait en 2023, comme je l'ai fait en 2022 sur la route du Rhum, où j'ai terminé aussi à la 9e position, alors que je m'y attendais pas forcément. Donc, je sais aussi qu'il y a des choses qui sont possibles. Donc, franchement, moi, je me prends pas la tête à l'avance. Je vais faire au mieux sur l'eau. Et en fait, c'est aussi une façon de fonctionner qui me correspond. C'est pas parce que je refuse la compétition. C'est plus parce que moi, je me mets déjà une pression de fou et que si je relâche la tension avant le départ, j'ai plus de chances de mieux réussir que si je commence à regarder mes concurrents, à regarder les forces en jeu et tout ça. Ça me correspond pas très bien, ça va me mettre encore plus de pression et j'en ai vraiment pas besoin.
Très bien, on va conclure en parlant un petit peu d'avenir. Bien évidemment, vous êtes toutes les deux focalisées à fond, j'imagine, aujourd'hui sur le Vendée Globe qui est le grand objectif à venir. Mais est-ce que quand on est à 6 mois et demi du Vendée Globe, on réfléchit à ce qui va nous arriver derrière? Est-ce que toi, par exemple, Isabelle, tu sais de quoi l'avenir sera fait après ce Vendée Globe? Est-ce que tu as des aspirations? Est-ce que tu voudras rester en IMOCA, éventuellement remettre ça? Est-ce que tu te projettes ou tu refuses de le faire pour rester concentré sur l'objectif?
Alors non, je me projette pas et c'est pas tellement pour rester concentré sur l'objectif, c'est parce que je me projette sur probablement un changement changement de direction, disons, dans ma vie professionnelle. C'est un peu ce que je m'étais dit en partant sur le Vendée Globe en 2020. Je m'étais dit, bon, je fais ce Vendée Globe et puis après, j'arrête, je change de métier, je veux découvrir de nouvelles choses. Et puis, la vie m'a proposé autre chose et j'ai fait des choix différents. Mais je pense qu'il est temps pour moi de passer à autre chose et de justement commencer par pas tout le temps me projeter vers un objectif. Parce que la vie de la compétition, c'est ça, c'est toujours avoir un objectif, avoir des plannings, être tourné vers l'avenir. Et je crois que là, ce que je souhaite, c'est faire mon Vendée Globe, le vivre bien, revenir, terminer ce projet en beauté, et puis ensuite me laisser du temps pour justement qu'il n'y ait rien devant moi et laisser venir ce qui va se donner après.
Et tu as une idée de ce que tu voudrais faire si tu changeais de métier, si tu changeais d'univers? Je ne sais pas si c'est d'univers, mais en tout cas de métier.
Justement, j'essaye de ne pas trop avoir d'idées. Quand il y a une idée qui vient, je me dis « Ok, ça peut être chouette, mais je ne vais pas rentrer trop là-dedans ». L'idée, c'est vraiment de pas anticiper. C'est vraiment de laisser mûrir quelque chose. C'est comme, tu vois, si tu cueilles un fruit qui est pas mûr, c'est un peu dommage parce que il mûrit moins bien quand il est dans ton panier que quand il reste sur l'arbre. Et du coup, là, je me dis, moi, là, ça fait 20 ans que je fais de la course au large. Si j'ai envie de vivre autre chose derrière, j'ai envie de me laisser vraiment du temps pour voir ce que ce sera.
Et toi, Sam, j'ai regardé la série All Access, là, qui est produite par l'IMOCA, dans laquelle il y a un moment, tu dis que si tu n'avais pas abandonné sur tes deux derniers Vendée Globe, tu serais peut-être déjà allé voir autre chose. Est-ce que tu aurais envie d'autre chose ou est-ce que ton avenir immédiat après le Vendée Globe restera en IMOCA et peut-être avec un objectif 2028?
Bonne question. C'est dur à penser plus loin que le Vendée Globe parce qu'il faut tellement d'énergie pour préparer un Vendée que en fait je trouve que ça fait une distraction et souvent j'ai marqué sur certains gens je dis peut-être s'il avait pas moins pensé à la suite il aurait peut-être mieux réussi celui-là et donc c'est un piège que j'ai pas du tout envie de tomber dedans et j'ai vraiment envie de rester focaliser sur Vendée Globe pour essayer de pas abandonner celui-là parce que ce serait dommage de faire trop de la suite mais là j'ai confiance et donc un peu comme Isa je me suis dit que j'ai pas trop envie de faire que des Vendée Globe pour le reste de ma vie non plus mais par contre j'adore l'IMOCA et la classe et en tout cas avec le projet Initiative K moi je finis pas tout de suite après le Vendée Globe parce que le projet continue jusqu'à fin 2025 au minimum, donc j'ai la chance de pouvoir profiter encore de mon beau bateau pour toute l'année post-Vendée Globe et ça va me donner le temps de réfléchir pour la suite aussi. Mais il y a d'autres chouettes courses autour du monde, il y a d'autres choses que le Vendée Globe, mais j'imagine pas avoir un changement de carrière entière, j'adore trop la voile, donc je vais pas trop bouger, moi.
Bon, très bien. On va terminer avec toi, Sam. On est à 5 jours du départ. Est-ce que tu as déjà une petite idée de ce qui va vous attendre pour ce départ et au niveau des conditions?
J'étais en train de regarder juste avant quand on s'est connecté sur ce podcast. Ça semble d'être des vents ouest. De toute façon, c'est Francis Le Goff, le directeur de course. Donc, on va avoir une tempête, non? mais non, je me suis dit que c'est un peu loin encore pour vraiment regarder. Mais oui, c'est bien de savoir aussi un peu les tendances, même si c'est que aussi pour réfléchir au choix de voile, parce qu'il faut faire une déclaration de voile dans les classes IMOCA. Mais ça semble être des conditions classiques, un peu comme on a raconté tout à l'heure avec un peu de vent en face.
Eh ben très bien. Eh ben merci beaucoup Sam et Isabelle. C'était passionnant d'échanger avec vous sur cette Transat CIC. Départ dimanche 28 avril de Lorient à destination de New York. On vous souhaite à toutes les deux le meilleur sur cette Transat en solitaire. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour le 162e épisode de Pause Report. Bonne journée.
Merci Axel et bonne course à tous les 33 concurrents.
Merci Axel. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. À bientôt !